Jeanne Kabongo d'avoir
merci été
et des nôtres. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Messieurs, je vous laisse suivre à présent la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Charles-Antoine Bambara, directeur de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO.
Bonjour mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, membres de la presse, bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. À la une de cette conférence de presse aujourd'hui, la déclaration du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en RDC, déclaration également du président du Conseil de sécurité sur la situation en RDC après leur visite au mois de novembre sur le terrain, ici même en RDC, le briefing du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC lundi au Conseil de sécurité, donc décidément beaucoup de briefings et de déclarations sur la situation RDC. Et puis enfin, nous aurons le rapport de la section protection de l'enfant de la MONUSCO sur les violations des droits de l'enfant enregistrées au cours du mois de novembre, le point sur les activités de la section DD3R de la MONUSCO depuis le début de l'année, et l'annonce des célébrations des 15 ans de Radio Okapi qui seront célébrées très bientôt donc ici à travers le pays. Pour le groupe de communication, vous avez comme à l'accoutumée Florence Marchal qui fera le point des activités donc humanitaires du développement. Et puis depuis Goma, nous aurons le capitaine Yachine qui va donc nous faire le point des activités militaires de la semaine. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous ouvrons tout de suite donc avec ces informations sur les déclarations, notamment la toute première, la déclaration de porte-parole du secrétaire général des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Le secrétaire général se félicite de l'annonce de la poursuite de la médiation menée par la conférence épiscopale nationale CENCO afin de parvenir à un consensus plus inclusif sur la tenue des élections en République démocratique du Congo. Il prend note du soutien et des encouragements exprimés par le président Kabila à l'égard de la médiation de la CENCO et de la disponibilité déclarée du rassemblement de l'opposition à rester engagé dans le dialogue. Le secrétaire général exprime son soutien à la médiation menée par la CENCO. Il appelle tous les acteurs politiques en RDC à se réengager donc dans cette médiation. À moins de 2 semaines avant la fin du second et dernier mandat du président Kabila, le secrétaire général des Nations Unies souligne la nécessité de poursuivre de manière déterminée ce processus mené par les Congolais eux-mêmes afin de parvenir à une solution consensuelle et pacifique à l'impasse actuelle. Par ailleurs, lundi soir, le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Roman Markizi, a fait également une déclaration devant le Conseil à la suite de leur visite effectuée en RDC du 11 au 13 novembre dernier. Dans cette déclaration, le président affirme que le Conseil de sécurité suit de très près l'évolution récente de la situation politique en RDC et demeure préoccupé par le risque de déstabilisation que l'absence de règlement rapide et consensuel de la crise politique actuelle fait peser sur le pays et la région dans son ensemble, comme en témoignent les violences des 19 et 20 septembre dernier. Le Conseil prend acte de l'accord politique conclu le 18 octobre et note la désignation d'un nouveau Premier ministre. Il est encouragé par l'engagement unanime des acteurs congolais à empêcher la déstabilisation et à continuer donc de tenir des discussions ouvertes à tous afin de parvenir à un large consensus en vue de l'organisation d'élections présidentielles et législatives libres, justes, crédibles, ouvertes à tous, transparentes, pacifiques et dans le meilleur délai, menant à une transmission pacifique du pouvoir conformément à la constitution congolaise, afin donc d'assurer la stabilité, le développement et la consolidation de la démocratie constitutionnelle en République démocratique du Congo. Le Conseil exhorte ensuite le gouvernement et toutes les parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que les élections soient libres, justes, crédibles, ouvertes et transparentes, comme il est rappelé dans la résolution 2277 pour qu'elle s'accompagne d'un débat politique libre et constructif et que soit assurée la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de réunion, un accès équitable aux médias, y compris les médias d'État, la sécurité et la liberté de circulation de tous les candidats, ainsi que des observateurs et témoins, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des acteurs de la société civile, notamment les femmes. L'intégralité de cette déclaration du président du Conseil de sécurité sur la RDC vous sera transmise à la fin de cette conférence de presse. Briefing du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC au Conseil de sécurité, donc sur la situation en RDC également. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, M. Maman Sambo-Sidikou, chef de la MONUSCO, a briefé aussi lundi soir le Conseil de sécurité sur la situation en RDC. Il a affirmé qu'à 2 semaines de la fin constitutionnelle du deuxième et dernier mandat du président Kabila et à plus de 6 semaines après la signature de l'accord politique intégral pour l'organisation d'élections apaisées, crédibles et transparentes du 18 octobre dernier, la situation politique demeure incertaine et volatile en RDC. Maman Sidikou a aussi expliqué que les positions de la majorité présidentielle et du rassemblement coalition des partis d'opposition n'ont pas sensiblement évolué. Alors que la majorité présidentielle continue de rejeter le principe d'un deuxième dialogue, le rassemblement insiste sur la tenue d'un dialogue réellement inclusif, a indiqué le chef de la MONUSCO. Il a par ailleurs évoqué un sentiment d'appréhension à l'approche donc de la date du 19 décembre. Il a indiqué enfin que la mission onusienne a actualisé son plan d'urgence tout en ajustant sa posture afin d'atténuer la violence à caractère politique et protéger les civils dans la limite des ressources disponibles. Voilà un peu ces différentes déclarations donc sur la situation RDC. Nous continuons avec le reste des informations en provenance des composantes de la MONUSCO cette fois-ci, section protection de l'enfant de la MONUSCO. La section protection de l'enfant de la MONUSCO et ses partenaires ont documenté 154 violations graves des droits de l'enfant au cours du mois de novembre. Ceci comprend notamment la séparation de 49 garçons et de 6 filles des groupes armés. La grande majorité de ces enfants ont été recrutés en 2016, alors que 2 d'entre eux étaient associés à des groupes armés depuis 2013. Les principaux auteurs de ces recrutements sont des groupes armés Niatoura, FDLR Foka et un nouveau groupe du nom du Corps du Christ opérant dans le territoire de Béni. La section protection de l'enfant a également documenté le cas de 58 enfants tués ou blessés en raison de la violence liée au conflit, le meurtre et la mutilation d'enfants est non seulement la violation la plus documentée au mois de novembre, mais il s'agit de l'une des rares fois qu'un si grand nombre de meurtres et de mutilations d'enfants ait été enregistré. En novembre dernier, un groupe Maïmaï a attaqué le camp de déplacés de Luanga dans le territoire de Lubero, tuant 18 enfants et blessant 14 autres, dont plusieurs bébés à l'aide de fusils et de machettes. Les enfants blessés ont été évacués par la MONUSCO vers des hôpitaux de Goma, mais un enfant de 3 ans a malheureusement succombé à ses blessures au cours de cette évacuation. Section genre de la MONUSCO. La section genre de la MONUSCO, en collaboration avec ONU Femmes, a cofinancé l'organisation d'une journée d'échange des femmes au Nord Kivu tenue mercredi dernier à Goma sur l'implication des femmes politiques et de la société civile au processus de négociation de paix et à la gestion des affaires publiques. L'activité a été organisée dans le cadre donc de la commémoration du 16e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Une plateforme d'échange et de plaidoyer qui regroupe plus de 40 organisations de la société civile du Nord Kivu a donc participé à cette activité. L'objectif était de renforcer l'équité du genre dans les instances décisionnelles afin d'améliorer la représentativité des femmes à tous les niveaux, local, provincial et national. Mobiliser les médias à travers le point de presse pour permettre aux femmes de s'exprimer par rapport à la gestion du pays. Cette journée de réflexion a donné l'opportunité aux femmes d'élaborer un cahier des charges qui contient leurs revendications adressées au gouvernement de la RDC, mais aussi à la communauté internationale. Point sur le désarmement, la démobilisation et le rapatriement des ex-combattants par la MONUSCO, et ceci est donc de la section DD3R de la MONUSCO. Depuis le début de cette année 2016, la section DD3R de la MONUSCO a rapatrié au Rwanda 153 ex-combattants FDLR, 14 enfants associés au groupe armé et 254 dépendants. La section a également rapatrié 3 anciens combattants FDLR et 9 dépendants en Ouganda et 1 dépendant au Burundi. Leur motivation varie très souvent. La majorité des ex-combattants entrant dans les DDR disent qu'ils sont fatigués de vivre dans la brousse et plus récemment, ils affirment aussi que les FDLR ne réalisent pas leur objectif stratégique, surtout après la dissidence qu'a connue le groupe avec la création du CNRD, le Conseil National pour le Renouveau Démocratique. Et depuis la création de la MONUSCO jusqu'en 2016, environ 13 000 ex-combattants FDLR de nationalité rwandaise seraient rapatriés au Rwanda. Il s'agit là de chiffres approximatifs parce qu'il y en a qui retournent par eux-mêmes dans leur propre pays. D'autres sont rapatriés par le gouvernement de la RDC. La commission rwandaise également du DDR a aussi ces chiffres et ces chiffres ne comporteront que ceux qui ont rejoint donc le programme de réinsertion du gouvernement rwandais. Actuellement, il y a 299 désarmés, non démobilisés dans trois camps du programme désarmement volontaire, 186 à Kisangani, 45 à Walungu, 68 à Kanyabayonga et quelques 1059 dépendants en tout. Pour l'année 2016, le nombre de dossiers traités par la MONUSCO, tout groupe armé compris, est de 276 ex-combattants congolais, 216 combattants étrangers, 382 enfants congolais associés au groupe armé, et 23 enfants associés donc au groupe armé étranger. À présent, cette information de la division de l'information publique, les 15 ans de Radio Okapi, annonce donc du lancement des activités des 15 ans de Radio Okapi. La cérémonie aura lieu au centre Wallonie-Bruxelles, ici à Kinshasa, le lundi 12 décembre 2016 à 17h et sera suivie par une exposition photo sur la vie et l'histoire de Radio Okapi. Vous y êtes bien sûr tous invités. Police MONUSCO à présent, du 28 novembre au vendredi dernier, l'unité d'appui à la lutte contre la criminalité organisée de l'UNPOL a dispensé une formation en collaboration avec leurs homologues de la Direction générale des écoles et des formations. La session a été officiellement ouverte par le général Bideko en présence de la représentante du GIZ et du coordonnateur de la formation UNPOL. Plusieurs thèmes ont été exploités, notamment la procédure pénale, le droit pénal spécial, les perquisitions et saisies, les techniques d'audition et les gardes à vue. Au terme de cette formation, les 30 apprenants se sont vus remettre une attestation de stage à la cérémonie donc de clôture. La mission des Nations Unies pour la stabilisation RDC MONUSCO a lancé officiellement ce vendredi la stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité à Uvira sous Liuve. La cérémonie a été co-présidée par les commissaires généraux de la police nationale congolaise Charles Bisengimana et de la police MONUSCO, le général Awale Abdounassir. C'était en présence de plusieurs personnalités de cette province. Des conteneurs ont d'abord ainsi été offerts à la PNC et disposés à certains endroits chauds de la cité. Ensuite, des rations alimentaires et du carburant sont offerts chaque semaine par la MONUSCO à une centaine d'éléments de la PNC affectés à la CELUVE. 24 motos d'une valeur de plus de $120 000 américains sont venues s'ajouter à cet effort de la MONUSCO. Par ailleurs, deux numéros verts sont également opérationnels à Uvira. La population appelée à collaborer avec la police pourra ainsi appeler gratuitement pour signaler tout fait délictueux dans cette cité d'Uvira. Voilà donc pour ces informations en provenance des composantes de la MONUSCO. Nous passons tout de suite la parole à Florence Marchal, qui, comme chaque semaine, va nous faire le point donc des activités humanitaires et de développement en provenance des agences du système des Nations Unies. Bonjour Florence, la parole est à vous.
Bonjour Charles, bonjour à tous. 24 peintures et 5 sculptures et céramiques ayant pour dénominateur commun la représentation de la lutte contre la pauvreté sont exposées à l'Institut français de Kinshasa depuis hier et jusqu'à mercredi prochain. Initié par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts, cette exposition est le couronnement d'un concours d'art lancé le 17 octobre dernier à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, un concours qui a récompensé 4 étudiants de l'Académie. Cette activité a permis d'engager de jeunes Congolais sur la meilleure façon de lutter contre la pauvreté et l'exclusion en RDC, notamment les questions liées à l'autonomisation des femmes, au développement et à la lutte contre la stigmatisation associée au VIH-SIDA. Vous êtes donc tous invités à visiter et à apprécier cette très belle exposition. Un séminaire sur la stratégie de poursuite des crimes internationaux en RDC se tiendra ce vendredi et samedi à Kinshasa, organisé par le Conseil supérieur de la magistrature avec le soutien du PNUD et de la MONUSCO. Ce séminaire a pour objectif de contribuer à la réduction de l'impunité des crimes par la mise en place d'une action judiciaire plus adaptée et tenant compte de l'échelle des crimes et des ressources disponibles. Voilà pour moi, Charles, aujourd'hui.
Voilà, information brève pour le volet humanitaire et développement qui nous permettent donc de nous rendre directement sur Goma où nous allons retrouver le capitaine Yachin Kassim qui va nous faire un tour d'horizon de l'actualité militaire de ces sept derniers jours. Voilà, capitaine, la parole est à vous. Bonjour.
Bonjour Monsieur Charles et merci. Alors, pour la situation sécuritaire dans la ville de province de Kinshasa et dans les autres provinces situées à l'ouest de la République démocratique du Congo, a été jugée calme durant cette semaine. Toutefois, des activités négatives liées à l'activisme des éléments armés dans les provinces de Kasaï et du Kasaï-Centre ont été rapportées pendant la période sous examen. En effet, dans la province du Kasaï, des troubles consécutifs au meurtre de deux agents des forces de sécurité congolaises par des éléments non identifiés dans la localité de Mbao, située à 20 km au sud de Tchekapa, ont été rapportés du 2 au 4 décembre 2016. Des éléments dont l'affiliation armée reste indéterminée ont attaqué la ville de Tchekapa. Des renforts des FARDC déployés dans cette contrée ont repoussé l'attaque des miliciens lancée contre les sites stratégiques, notamment l'aéroport de Tchekapa, et met fin à cette insurrection le 4 décembre 2016. Dans les provinces de Haut et de Bawele, la situation sécuritaire a été caractérisée par une résurgence d'activités négatives perpétrées contre les populations civiles par des éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur. Cependant, les troupes coalisées FARDC MONUSCO déployées dans cette partie du pays et dans le cadre de l'opération dénommée Red Kite continuent de mener des opérations militaires rigoureuses dans le but de neutraliser tous les groupes armés actifs. Dans la province de Haut-Uele, dans la nuit du 29 au 30 novembre, 45 éléments de la LRA armés d'AK-47 ont fait incursion dans la localité de Bakudangba, Namboulé, Bangbalama, Nangum et Nawaku, pays systématiquement les habitants et kidnappaient approximativement 35 d'entre eux pour porter les biens pays. Ces attaques ont provoqué le déplacement des populations civiles, notamment vers Douroma. Sitôt alertés, des casques bleus du bataillon marocain de la force de la MONUSCO et des troupes des FARDC déployées dans la zone ont projeté des patrouilles conjointes dans les régions affectées dans le but de contrer les attaques, traquer les assaillants, rassurer et protéger les populations civiles. En Ituri, l'armée congolaise poursuit, avec le soutien déterminant de la force de la MONUSCO, les opérations contre les éléments réfractaires du FRPI. Dont de nouvelles exactions contre les populations civiles ont été rapportées pendant la période sous examen. Le 29 novembre, les éléments du FRPI ont fait incursion dans la localité de Zouba, située à environ 5 km au sud d'Aveba, dans le but de payer les populations civiles. Informés, des troupes d'intervention rapide des FARDC basées dans la région sont intervenues et ont repoussé les assaillants. Au Nord-Kivu, cette fois, la situation sécuritaire a été jugée globalement volatile et définie par la lutte contre le banditisme et l'activisme des groupes armés, ainsi que par la protection des déplacés par l'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO dans certains territoires de cette province. Dans le territoire de Rutshuru, l'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO a, dans le cadre de la protection des populations civiles et de leurs biens, initié des opérations militaires dans le but de lutter contre la récurrence du banditisme dans certaines localités de ce territoire. A cet effet, le 1er décembre, quatre bandits armés ont pris position et tendu une embuscade sur l'axe Kalengira-Biron, 10 km à l'est de Rutshuru centre. Alertés par les populations locales, les troupes des FARDC sont intervenues rapidement, tuant l'un des assaillants et repoussant les trois autres. Par ailleurs, la situation sécuritaire dans leur territoire de Rutshuru a également été marquée dans la localité de Luanga par le retour de déplacés suite au renforcement de mesures de sécurité dans la région. Ainsi, le 2 décembre, un premier groupe d'environ 250 individus est retourné à Luanga. En outre, une augmentation significative d'exactions perpétrées dans la localité de Niamilima et sa périphérie a été observée pendant la période sous examen. Elle provoquait le 30 novembre le meurtre du chef du groupement de Bambou par des éléments supposés appartenir au groupe Maïmaï Niatura, allié des forces démocratiques de libération de Rwanda, FDLR. Cet incident a poussé les populations locales à se déplacer vers les localités avoisinantes. Cependant, au moins 9 éléments supposés appartenir au groupe Maïmaï actif dans cette région ont été arrêtés à Niamalima centre, situé à 100 km au nord-ouest de Goma. Au chapitre des reddition dans la province du 30 décembre, à ce jour, 4 éléments en provenance du groupe armé, notamment 2 du groupe Maïmaï Simba, se sont rendus aux troupes de la force onisienne déployées dans la province. Au sud Kivu, l'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO continue de maintenir sous son contrôle la situation sécuritaire par la conduite des opérations initiées contre les groupes armés encore actifs. À cet effet, le 2 décembre, l'armée congolaise a engagé et repoussé dans la localité de Nyamoma, située à 12 km à l'est de Sange, des éléments du groupe Maïmaï Bigaya. Au Tanganyika, la situation sécuritaire reste globalement volatile, particulièrement dans les régions affectées par les conflits interethniques entre les communautés Luba et Pigmi. Les forces de défense et de sécurité congolaises poursuivent, avec l'appui des troupes onisiennes déployées dans cette province, les activités militaires visant à mettre un terme aux attaques menées contre les populations civiles. Merci beaucoup.
Voilà, merci donc au capitaine Yachin Kassim qui nous faisait donc ce tour d'horizon de la situation militaire en RDC. Nous allons rester à Goma où vous avez, capitaine, à votre gauche, notre collègue Kofi Yogomebu qui est du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il va nous faire un point, non pas sur le rapport mensuel sur la situation des droits de l'homme, car chaque fois que vous voyez nos collègues du bureau conjoint, vous pensez à ce rapport, mais plutôt il y a cette journée importante, une journée internationale sur la situation des droits de l'homme qui est célébrée tous les 10 décembre de chaque année. Kofi, bonjour, la parole est à vous. Quel est le point que vous voulez nous faire à l'occasion de cette journée?
Merci Charles, chers amis de la presse, chers auditeurs de Radio Okapi. Comme vous le savez, le 10 décembre prochain sera célébrée la Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée qui a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies au terme de sa résolution 423V du 4 décembre 1950 et s'impose à tous les États membres des Nations Unies. Elle est une occasion spéciale de rappeler l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 à Paris. Chaque 10 décembre, donc, ramène l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La célébration de cette journée offre aux différents acteurs une occasion de réfléchir sur les principes fondamentaux des droits de l'homme, comme l'universalité et l'égalité, pour ne citer que ces deux-là. C'est aussi l'occasion pour chaque État membre, voire chaque individu, de réfléchir sur l'importance des droits de l'homme dans la vie de tout individu et aussi l'impérieuse nécessité non seulement de les reconnaître, travailler à les promouvoir, mais aussi les respecter, les protéger et les concrétiser. Dans le cadre de la commémoration de cette date importante par l'État congolais, le BCNUDH collabore avec le ministère de la Justice et des droits humains, et avec la Commission nationale des droits de l'homme qui représente les principaux acteurs étatiques et qui, en général, préside les cérémonies commémoratives des journées relatives aux droits de l'homme. Le BCNUDH, comme par le passé, apporte un appui technique et financier pour l'organisation de plusieurs activités, tant à Kinshasa que dans toutes les provinces de la RDC, où sont implantés ses bureaux lors de cette commémoration. Cette année, le thème choisi pour la Journée internationale des droits de l'homme est « Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui ». À Kinshasa, une cérémonie officielle sous la présidence du ministre de la Justice et des droits humains se tiendra le vendredi 9 décembre dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie prévoit une animation théâtrale et les discours de différents intervenants sur le thème de cette année, dont le directeur du BCNUDH, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que le ministre de la Justice et des droits humains. Donc vous y êtes tous invités, pour ceux qui sont à Kinshasa. Cette année, la célébration de la journée internationale sera couplée avec la commémoration de 20 ans de présence du Haut Commissariat aux droits de l'homme en RDC. Donc ça veut dire concrètement que le BCNUDH, ça fait 20 ans qu'on est là. Comme vous le savez, le BCNUDH tel qu'il est aujourd'hui est le résultat d'une fusion en février 2008 du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, ouvert en RDC en 1996, et la division des droits de l'homme de la MONUSCO, ouvert en 2000. Son mandat est notamment d'assister le gouvernement congolais dans la promotion et la protection des droits humains à travers ses 6 antennes et les bureaux et les 10 bureaux de terrain, et en particulier son quartier général qui est basé à Kinshasa. Pour marquer les 20 ans de notre présence dans le pays, nous avons produit un mini-documentaire retraçant l'historique et les réalisations de notre bureau depuis sa création. Il est question de recueillir les témoignages des bénéficiaires des actions du BCNUTH, qu'il s'agisse de l'appui technique ou le renforcement institutionnel fourni notamment au Comité interministériel des droits de l'homme pour la collaboration des rapports initiaux et périodiques de l'État congolais aux organes de traité et l'examen périodique universel, et à la CNDH dans l'accomplissement de son mandat, qu'il s'agisse aussi de l'appui fourni à la magistrature civile et militaire dans le cadre des poursuites, des enquêtes et des audiences foraines. Ce mini-documentaire montrera que le travail du monitoring, qui est au cœur de notre mandat, constitue en réalité une juste partie de ce que nous faisons pour promouvoir les droits de l'homme en RDC. Je vous remercie.
Voilà, merci donc à notre collègue Kofi depuis Goma, qui nous parlait donc de cette journée internationale du droit, des droits de l'homme, qui nous permet d'ouvrir tout de suite la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Je rappelle que nous avons beaucoup de collègues chargés de communication des systèmes des Nations Unies RDC qui sont là et qui pourront également nous aider à répondre à un certain nombre de vos questions.